partie du grand Israël de l'époque. C'est donc un lieu aussi de passage. On ne reste pas dans le désert, normalement. On le traverse. Mais c'est aussi un passage obligé. Si on veut aller de l'autre côté, et c'est aussi un temps d'épreuve, de purification, et donc aussi un lieu de rencontre avec Dieu, lieu d'adoration, où Dieu aime parler à l'homme. Alors la durée du passage du peuple d'Israël au désert était de 40 ans. Passage d'une condition d'esclaves, ils étaient esclaves en Égypte, à la terre promise en passant donc à travers le désert. Ils sont libres, mais dans le désert. Et alors, ça renvoie aussi pour nous, on le verra un peu, notre dépendance que nous devons forcément avoir avec Dieu. Donc dans le désert, on peut s'appuyer sur Dieu, et puis aussi, si on est plusieurs, une certaine solidarité entre nous. Il faut s'entraider si on veut aller jusqu'au bout. Il faut aider aussi ceux qui sont avec nous. Donc c'est une expérience où on fait l'expérience d'abord de la faim et de la soif. C'est une épreuve terrible. Mais aussi, s'il n'y avait que ça, mais aussi les serpents qui vont mordre, piquer les fils d'Israël. Et donc, on ne peut rester dans ce désert, au moins le traverser, qu'avec la grâce de Dieu, qui lui donnera la manne, il fera jaillir l'eau du rocher, il donnera l'écaille. Et donc, on voit que Dieu n'a pas abandonné son peuple dans le désert. Donc dans le désert, on ne peut compter que sur Dieu. Et c'est Dieu qui a voulu mettre le peuple d'Israël à l'épreuve. Va-t-il mettre sa foi en Dieu ou pas? Et donc, dans le désert, voilà, ils ont ce choix. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre leur confiance, toute leur foi en Dieu, suivre les commandements de Dieu? Et cette épreuve, elle est difficile parce qu'ils étaient en Égypte, même s'ils étaient un peu réduits en esclavage. Eh bien, ils aiment bien les marmites de viande, les oignons et toutes ces histoires. Tout ce qu'ils ont mangé correctement, et on était quand même si on était maltraité, mais on avait de quoi manger. Et donc la tentation, ce sera justement de repartir, de retourner à son ancien esclavage, qui était finalement... Par rapport au désert, il se dit, c'était quand même plus confortable. Alors, c'est ça cette épreuve qui est proposée donc aux fils d'Israël. Mais le Seigneur leur dit que de l'autre côté du désert, il y a la terre promise, une terre où coule le lait et le miel. Et donc, pour pouvoir atteindre cette terre, eh bien, il y a ce passage du désert. Si j'insiste un peu sur le début, c'est parce qu'on va voir un peu pour nous et comment Jésus lui-même, pourquoi il est allé aussi. C'est un lieu donc où va prendre naissance finalement le peuple d'Israël, comme peuple constitué avec progressivement la hiérarchie, c'est-à-dire Dieu va instituer Aaron avec ses fils pour le service sacerdotal, pour le culte, l'offrande des sacrifices. C'est dans le désert que tout ça s'est fait. Dans le désert, Dieu va aussi donner la loi qui va constituer vraiment Israël, vraiment même de lui donner une mission de vivre cette loi et de la transmettre. Un temps de désert où aussi il faut se défaire des vieilles habitudes. Donc il y a une libération progressive qui doit se faire dans le temps. Alors dans le Deutéronome, on a des indications Pourquoi donc le désert? Pourquoi cette épreuve du désert? Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de ta longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposée pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé au cours de ces 40 années. Tu le sauras en ton cœur comme un homme éduque son fils, ainsi le Seigneur ton Dieu fait ton éducation. Tu garderas les commandements du Seigneur ton Dieu pour marcher sur ses chemins et pour le craindre. Et dans ce passage, on a un peu tout ce qui est le pourquoi du désert. Et c'est pour cela que nous aussi, nous avons le carême, qui dure par 40 ans, 40 jours, et encore, il y a des petites haltes dans ce carême, puisque le dimanche, vraiment, c'est pas carême. Mais il faut bien comprendre l'esprit. Le Seigneur veut qu'on découvre ce qu'est la faim. Et pas François aime bien dire que le carême, il doit être un peu mordant, quoi. Ça doit nous déranger un peu. Sinon, c'est pas tellement un carême. Il faut sentir la morsure du carême. Comme on pourrait sentir la morsure d'un serpent, ben peut-être, ça c'est moi qui rajoute. Mais c'est pour justement connaître cette situation de dépendance et puis relativiser les choses qui sont pourtant nécessaires. Donc il a fait connaître la pauvreté et c'est pour savoir qu'est-ce qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'on fait confiance en Dieu ou pas? Quand tout va bien, on a tout ce qu'il faut, on manque de rien, on ne se sent pas très dépendant, hein. On se sent au contraire très libre, très autonome, etc. Et quand on manque de quelque chose, c'est là qu'on se dit « Ah, c'est pas toujours comme ça, il n'y aura pas tout le temps de la nourriture, il n'y aura pas tout le temps des choses qui sont sécurisantes. » Et donc je dois mettre ma confiance dans ce Dieu. Et au désert, on ne peut pas s'appuyer sur qui que ce soit, parce que le voisin, il n'est pas mieux loti que nous. Il est pareil. Alors au début, il y a quelques provisions, donc on ne se rend pas compte. C'est sympa, le désert, et puis au bout de quelques temps, les provisions, s'il n'y en a plus. Plus de sécurité, donc il faut s'appuyer sur Dieu. Pas d'autre solution, ou alors, il faut refaire demi-tour et partir à l'esclavage en Égypte. Mais c'est pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour découvrir d'autres nourritures. Et cette nourriture, c'est justement la parole de Dieu qui doit être notre nourriture. Alors, le désert va être aussi un temps de tentation. Et c'est ce qu'ils vont exprimer lorsque ils ont faim, justement, à Exode 16. Toute la communauté des Israélites se mit à murmurer contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent : Que ne sommes-nous morts de la main de Yahvé au pays d'Égypte quand nous étions assis auprès de la marmite de viande et mangeions du pain à satiété ? À coup sûr, vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et on est un peu comme ça aussi, hein. Quand ça va pas, on s'en prend à Dieu, hein. Voilà. On a ces choses-là. On a des pensées de révolte envers Dieu et envers l'Église. Voilà. Vous nous dites des belles choses, mais on meurt de faim. Et donc ça c'est une tentation que Jésus va connaître aussi, puisque le démon va, on va le voir après, comment il va tenter Dieu, Jésus. Ensuite, il y a une autre tentation, c'est la tentation du veau d'or. C'est l'idolâtrie. Pendant que Dieu donnait la loi à Moïse sur la montagne, la loi que Dieu écrivait sur les tables de pierre, hein, le peuple perdit patience parce que justement Moïse, ça faisait 40 jours et 40 nuits qu'il était sur le sommet de la montagne et puis les fils d'Israël ne comprenaient pas. Et donc Dieu parlait à Moïse pendant que le peuple commençait à tomber dans l'idolâtrie. Ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un dieu en forme de veau avec leur collier et leur bague en or. C'est curieux parce que d'où leur venait tout cet or? Eh bien, quand ils ont fui l'Égypte, quand Pharaon les a chassés d'Égypte, eh bien, ils ont dépouillé les Égyptiens de tous leurs bijoux d'or. Parce qu'ils voulaient tellement qu'ils partent, ben prenez aussi, prenez de l'or, prenez tout ce que vous voulez, mais partez! Et donc, ils ont dépouillé l'Égypte de tous leurs colliers, bagues et autres colliers fichés en or. Et finalement, qu'est-ce qu'a fait Aaron? C'est assez étonnant. Ben, donnez-moi tout ça, je vais en faire un veau d'or. Et donc, il va récupérer tous ses bijoux et il va en faire un veau. Les fils d'Israël vont se prosterner devant ce veau d'or. Allons, fais-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Exode 32. Donc, Moïse va donc redescendre de la montagne et il verra les fils d'Israël en train de faire la fête devant un veau d'or, se prosterner. Et alors, bon, il se mettra dans une grave colère, il brisera les tables de la loi et il réduira en poudre ce veau d'or qu'il jettera dans l'eau qu'il avait là et il fit boire les fils d'Israël cette eau. Leur bijou, ben votre veau d'or, vous allez l'avaler, vous allez le manger. Moïse intercédera donc pour le peuple, parce que Dieu aurait voulu détruire ce peuple, mais il va intercéder. Et aussi pour Aaron. Et aussi à un autre moment, Myriam aussi avait récriminé contre Moïse. Et dans le livre des Nombres, chapitre 12, hein, il est dit « Et pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse ?» Le châtiment divin s'ensuivit, Marie devint lépreuse, Myriam, hein, et il est grave aux yeux de Dieu de parler contre l'un de ses serviteurs, surtout s'il est innocent. Et donc Moïse intercédera et Myriam sera guérie. Voilà, tous ces passages, c'est l'épreuve dans le désert où le peuple d'Israël va connaître donc la tentation de l'idolâtrie, la tentation de la faim. Dans le désert, il y a eu aussi d'autres personnages qui sont allés dans le désert plus tard. Vous avez le prophète Élie qui a connu aussi cette épreuve du désert. Élie marcha dans le désert un jour de chemin, il alla s'asseoir sous un genêt. Il souhaita mourir et dit, « C'en est assez maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit, mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, voici qu'il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Et donc, dans le désert, on ne peut que suivre les commandements de Dieu, les directives de Dieu. Sinon, on ne peut pas traverser, on n'avancera pas, on mourra en route. Le chemin serait trop long pour toi. De même que dans le désert, Dieu avait quand même répondu d'une manière étonnante à la faim des fils d'Israël, enfin matérielle. Hein. Il avait donné la manne. Mais au bout d'un certain temps, la manne, ça leur sortait par les narines. Hein. Ils en étaient dégoûtés. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère, disait-il. Alors que le livre de la sagesse nous dit que la manne avait le goût des désirs de chacun. Ça veut dire que si vous voulez que ça ait le goût de viande, ça avait le goût de viande. Si ça avait le goût de fraise, ça avait le goût de fraise. La manne s'adaptait à nos désirs. C'est quand même assez extraordinaire. Dieu n'avait pas fait simplement un pain de guerre, mais un pain tout simple. Non, un pain qui s'adaptait aux désirs. Mais, évidemment, ça ne leur suffisait pas. Parce que c'était pas assez varié à leur goût. Et valait mieux. Voilà. Dieu, à travers ça, voulait leur faire un acte d'obéissance, de foi, et en même temps. Alors, pour le prophète Élie, il lui met à son chevet une galette avec une gourde d'eau. Et comme quoi Dieu veut avoir beaucoup de sollicitude pour ses serviteurs, ceux qui le reconnaissent, qui veulent aller à sa suite. Et il traversera tout ce désert. Et puis même, Dieu le fera retraverser dans l'autre sens pour aller accomplir des missions. Pour le prophète Élie, en tout cas. Alors, dans le désert aussi, il y a cette tentation du veau d'or, qui est une tentation que, vous voyez, qui est quand même très actuelle. Le curé d'Ars disait: laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Qu'est-ce qu'on dirait de notre monde d'aujourd'hui, hein? J'ai eu cette expérience au Cameroun. Ah, pardon pour les Camerounais qui sont là, si on n'en a pas. Mais bon, pour les Africains en tout cas. Mais ça aurait pu se passer n'importe où. C'était une région très reculée où je mettais beaucoup de temps pour arriver en voiture. Il fallait bien 3 heures de piste pour faire 60-80 km, donc c'était quand même très difficile, j'y allais pas si souvent. Et puis il y avait un village récalcitrant, voilà. Parce que quand je venais dire la messe pour Pâques, je réunissais tous les gens des villages qui venaient, parce que je pouvais pas dire, il y avait une quinzaine de villages avec des 15 chapelles, mais je pouvais pas dire toutes ces messes de Pâques, c'était pas possible, puisque j'étais curé de la cathédrale en même temps, donc vous voyez, imaginez le travail. Donc les déplacements, tout ça. Donc j'avais été dire une messe le dimanche soir de Pâques. Donc j'avais dit les messes le matin, la messe minuit, puis bon, parfait. Et les gens se déplaçaient, faisaient 20-30 km pour aller à cette messe-là, quoi. Et le village à côté, qui n'avait pas la messe, était à 5-6 km, n'était pas vu. Et puis leur case-chapelle a été délabrée, ils ne faisaient pas d'efforts pour l'entretenir. Bon, elle dit: moi, tant que vous n'avez pas une chapelle digne, moi je ne viens pas dans votre village, c'est pas possible. Alors bon, voilà, donc pendant, comme j'y allais dans ce village une fois tous les 2 mois, parce que de toute façon, faire le tour, je ne pouvais pas aller plus, et je ne suis pas allé pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, les gens commençaient à déterrer les morts pour les ressusciter. Parce qu'il y a un marabout qui est passé, qui a dit: moi, un sorcier, je vais vous le ressusciter, votre mort, ressusciter, etc. Donc c'est là que j'ai compris, oulala, il n'a pas fallu 20 ans, quelques mois, ça suffit pour que les gens commencent à partir dans tous les sens. Donc c'est pour ça que j'ai réuni. Je suis allé dans ce village, j'ai réuni tout le monde autour de la tombe et j'ai dit: allez, on va lui demander pardon au monsieur là, qui est mort. Et puis on va tous aller à l'église, je vous entends tous en confession. Et la plupart sont venus d'ailleurs. C'était très beau, ça a fait un déclic, quoi. Les gens se sont dit: mais oui, il y a un problème. Parce qu'ils avaient dépensé des sommes folles, et sans que je le sache, bien sûr. Mais comme la première fois, ils avaient déjà dépensé, je ne sais plus combien, 600 000 CFA, c'était une grosse somme, le barabou dit: ben, c'est pas suffisant, il faut donner plus, là, ça ira mieux après. Et puis en fait, bon, ils ont compris que c'était. Alors, mais voilà, très vite, dès que on perd ce sens de la prière, le sens de l'adoration, alors très vite, l'idolâtrie est à notre porte. Donc c'est un exemple que je vous donne parce que ça nous arrive souvent. Ici, dans le désert, c'est l'endroit où on avait été en pèlerinage, je crois qu'il était en pèlerinage à Terre Sainte, et voilà, et bien c'est le torrent où le prophète Élie il s'était réfugié ici pour fuyant la reine Jézabel, etc. Bon. Et on arrive par-dessus, il y a un monastère au fond. Donc dans ce désert, voyez, le Seigneur nous met à l'épreuve pour qu'on s'attache à lui. Mais dans le désert, il veut faire alliance aussi. Alliance avec tout le peuple. Donc il va donner la loi. Vous voyez, le désert, c'est pas que négatif, c'est pas qu'un temps d'épreuve, c'est un temps de grâce où le Seigneur va donner cette loi. La Torah, donc Exode 19, on a tout cela. Et puis dans ce désert, Dieu avait dit à Moïse, ben, fais-toi une tente, qu'il va appeler la tente de la rencontre. C'est-à-dire un lieu encore reculé en plus du peuple. Vous voyez. Elle était hors du camp, loin du camp où les fils d'Israël avaient leur tente. Elle était donc plus reculée. Et c'est là que Dieu parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Donc il y avait le désert, et puis plus loin encore dans le désert, la tente de la rencontre, loin du bruit, loin de l'agitation. Parce que le désert, en général, se traverse à plusieurs. Si on veut aller jusqu'au bout, il faut être à plusieurs. Seul, c'est très difficile. Et donc, il faut se retirer encore plus profondément encore, dans un lieu plus à l'écart, plus au calme. Et c'est là qu'on va pouvoir rencontrer le Seigneur. C'est pour ça que dans notre temps de carême, il faut prendre des temps de désert, voyez, des temps de recul. Même si on est tous ensemble dans une forme de désert, bien, il faut aller plus avant dans le désert. Et c'est là que le Seigneur va nous donner ses paroles, il va converser avec nous. Et le désert va nous permettre aussi, voyez, de découvrir ce qu'il y a au fond de notre cœur, finalement. C'est, bien sûr, on va en parler aussi cet après-midi, hein, le lieu du combat spirituel. Alors, on va, bien sûr, partir avec Jésus au désert. Il faut s'avancer dans ce désert. Et Jésus lui-même va être poussé par l'Esprit, comme on l'a dit, pour aller au désert, et ça se situe juste après le baptême qui a inauguré finalement sa mission, où le Père a attesté, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, bon, plusieurs traductions. Et l'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, a reposé sur lui. Donc Jésus part au désert pour y être tenté par l'esprit du mal, par le diable. Dans le livre de Jésus Nazareth de Benoît XVI, il nous dit « Pour le Christ, l'action est précédée par un temps de recueillement, qui est aussi nécessairement une lutte intérieure, pour la mission, et une lutte contre les déformations de la mission, qui se présentent comme ses vrais accomplissements. C'est une descente dans les épreuves qui menace l'homme, car c'est seulement ainsi que l'homme qui est tombé peut être relevé. Se tenant au cœur originaire de sa mission, Jésus doit entrer dans le drame de l'existence humaine, le traverser jusqu'au plus profond, afin de retrouver ainsi la brebis égarée, de la prendre sur ses épaules et de la ramener au bercail. » Et donc, je vais un petit peu détailler ce que nous dit le pape Benoît XVI ici, parce que ça va bien nous faire comprendre, voyez, notre combat à nous, notre lutte à nous. Premièrement, il nous dit que c'est un temps de recueillement. Toute action, une vraie action doit être précédée par un temps de recueillement. Et on sait bien qu'on ne fait rien de sérieux et de durable dans la précipitation. Dans notre vie, c'est tout le temps comme ça. Hein. quand nous voulons prendre une grande orientation dans sa vie, bien, on prend un temps de recul, de recueillement, on réfléchit un petit peu. Avant de s'engager dans le mariage, il est bon de prendre un temps de réflexion. Il y a le temps des fiançailles, ça en fait partie. Avant de s'engager dans la vie religieuse, eh bien, on s'y engage même progressivement, mais on réfléchit à deux fois quand même. Et puis on nous aide à réfléchir aussi, bien sûr. Et donc pour le Christ, lui aussi, il a été investi de cette mission, il doit se mettre, je dirais, en relation avec le Père dans le désert et accepter justement de connaître progressivement lui aussi la faim, le dénuement, la solitude et connaître peut-être ce que nous nous connaissons parfois, donc l'ennui, on trouve que le temps est long, tout ce que nous vivons dans nos moments de désert, voyez, Jésus a voulu le connaître. Il a voulu le connaître pour nous aider à le vivre et à en sortir victorieux. Jésus donc avait reçu l'onction au baptême, l'Esprit, et cet Esprit donc le pousse au désert, et cette onction qu'il avait reçue le constitue comme prêtre, prophète et roi, et donc il doit accomplir cette triple mission, si je puis dire. Et donc dans ce désert, bien Jésus va présenter, va porter déjà toute la mission qui l'attend, puisqu'après, tout de suite, il va se choisir ses premiers disciples, et puis il y aura les premiers miracles, les premiers enseignements, et les premières épreuves aussi, les premiers combats, les révoltes, enfin les murmures, les oppositions, jusqu'à la passion et son offrande totale. Alors, on va aller maintenant dans ce désert en comprenant que c'est une lutte intérieure. Alors, on va changer de photo. C'est un combat spirituel. J'y entre un petit peu, mais ça sera plus développé. Ce combat, il est pour notre progrès spirituel, bien sûr, et pour notre salut. Pape François, dans Gaudete et Exsultate, il dit « La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. » Donc si c'est un combat, c'est qu'il y a une bataille et qu'il y a aussi une victoire possible. Cette victoire, on sait bien qu'on ne peut l'obtenir qu'avec l'aide de la grâce de Dieu. Quand on a essayé par soi-même de combattre, on s'est bien vu qu'on s'est retrouvé par terre bien souvent. Et à force de tomber, on s'est dit, bon, c'est pas la peine d'aller dans cette voie-là, on s'en sortira pas tout seul. Il faut de l'aide. Et c'est à partir du moment où on commence à demander de l'aide qu'on progresse. Tant qu'on ne demande pas, le Seigneur nous laisse. Hein. Il dit, ben, tu veux essayer, vas-y, avance. Et puis alors on fait un pas, deux fois, pas, trois pas, on avance un petit peu, puis on se retrouve bien mal en point. Et c'est le moment où on commence à se tourner vers Dieu que notre progrès spirituel commence à se faire. Vous voyez, le Seigneur nous respecte dans nos cheminements. Hein. Il ne veut pas qu'on aille plus vite, il ne veut pas nous forcer. Il pourrait nous faire traverser plus vite, hein, mais bon, il faut que ce soit tout notre être, toute notre nature, toute notre, c'est toute notre personne, vous voyez, avec toute son histoire qui chemine dans ce désert. Alors, c'est pas simplement un combat contre le monde, nous dit pape François, et la mentalité mondaine qui nous trompe, nous abrutit et fait de nous des médiocres, dépourvus d'engagement et sans joie. Il ne se réduit pas non plus à une lutte contre sa propre fragilité et contre ses propres inclinations. Chacun a la sienne, alors c'est la paresse, la luxure, l'envie, la jalousie, entre autres. Mais c'est aussi une lutte permanente contre le diable, qui est le principe du mal. Jésus lui-même fête nos victoires. Il se réjouissait quand ses disciples arrivaient à progresser dans l'annonce de l'Évangile en surmontant les obstacles du malin. Il s'exclamait « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Donc Jésus se réjouit de nos victoires. C'est extraordinaire ça. Parce que c'est sa victoire à lui en fait. Il nous a donné la grâce, cette force intérieure, vous voyez, qui est capable de nous faire remporter la victoire. Mais il faut notre coopération bien sûr. La grâce est donnée, mais si je n'agis pas, la grâce ne produira rien. La grâce va être stérile en moi. Il ne faut pas que la grâce soit stérile, il faut qu'elle puisse donner toute sa mesure. Et c'est comme une graine, en puissance, il y a plein d'énergie dedans. Et si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Et c'est extraordinaire, cette petite graine-là, ça va faire... Voilà. Ben, la grâce, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est semé en nous. Et ça doit nous faire faire des choses extraordinaires. On n'y pense pas assez. Alors il y a beaucoup de grains qui sont coincés derrière des tiroirs chez nous, qui sont pas encore, qui n'ont pas pris toutes leurs mesures, qui sont pas encore assez enracinés en nous pour porter du fruit. Et c'est à cela qu'il faut découvrir. Alors, on sait qu'on est au pouvoir du mauvais, hein, c'est le prince de ce monde, c'est lui qui justement veut nous détourner de Dieu. Et justement Jésus, eh bien, il est allé au désert pour rencontrer, pour, je veux dire, se mesurer aussi à l'esprit du mal. Et l'esprit du mal, bien vite, il apparaît. Alors, on a disait que le temps de carême, c'est le combat spirituel, on y reviendra un peu. Et c'est une lutte pour la mission, pour justement que cette mission elle soit efficace, qu'elle soit féconde. Et le démon va tout faire pour contrecarrer la mission du Christ. Et comment il va s'y prendre? Eh bien, tout simplement en présentant des tentations. La réussite de la mission du Christ, c'est sauver les hommes pour la plus grande gloire du Père. Et donc, c'est d'abord une lutte intérieure, car, bien sûr, l'esprit du mal, il ne cesse de nous tenter, de tenter l'homme pour lui faire croire que sa mission est inutile. Jésus connaissait très bien les faiblesses des hommes, les ingratitudes, la méchanceté. Et le démon, il veut prouver à Jésus que ça ne sert à rien de vouloir essayer de sauver les hommes, car de toute façon, ils retomberaient bien vite dans leurs propres fautes, dans leurs péchés. On a déjà eu ça dans l'Ancien Testament, dans le livre de Job. Satan voulait prouver à Dieu que Job le maudirait en face si Dieu le laissait le tourmenter. Mais Job est resté fidèle. Alors Jésus, par l'acceptation de cette lutte, veut ainsi nous aider à ne pas perdre l'espérance. Avec lui, on sera victorieux. Mais le démon, lui, il veut... Voilà. Alors Jésus accepte aussi cette épreuve pour lutter contre les déformations de la mission. Les déformations qui interviendraient inévitablement au cours des âges. Car Jésus confiera à ses hommes la charge de continuer sa mission. Et donc la tentation sera aussi, on y reviendra, de l'efficacité. Alors, on va transformer l'Église en une superbe ONG qui est capable de vaincre toutes les réticences et qui sera soutenue par tout le monde. Et puis, la croix, c'est complètement inefficace. Et c'est ce que dit le pape François, l'Église n'est pas une ONG si elle ne professe... L'Église n'est qu'une ONG si elle ne professe pas Jésus et n'accepte pas de porter sa croix. Donc il ne faut pas réduire l'Église à une ONG. C'est la grande tentation d'aujourd'hui. Mais revenons sur les tentations. Alors, la première tentation, c'est, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Là, il lui fait miroiter, vous voyez, le pain qui serait sympathique à avoir. Il suffit de tendre la main. Et puis, là, c'est la possession. Voyez. Il part d'un besoin naturel, le démon, légitime, et puis il le détourne. Voyez. Finalement, là, on touche un peu tout ce qui est nécessaire, vous voyez, vital. Donc, c'est légitime de, quand on a faim de manger. Donc, il n'y a pas de raison que je meure de faim dans ce désert. Donc, je suis capable de changer les pierres en pain, je les change. C'est efficace. Et puis, finalement, pour nous, la tentation, ce sera de penser que voilà, on peut se passer de Dieu. Pour manger, j'ai pas besoin de Dieu, après tout. Et on risque justement de mettre ces choses qui sont pourtant nécessaires au premier plan, avant toute chose. Et ces tentations-là, elles sont très subtiles, parce que finalement, on va élargir le cercle de nécessité. Sûr que Adam et Ève, ils se contentaient de pas grand chose. Ils avaient quelques vêtements faits avec des feuilles de vigne ou je ne sais quoi. Bon, Dieu leur avait donné aussi des petits vêtements, mais bon, la nourriture, c'était surtout, c'était facile, un peu de la cueillette. Aujourd'hui, si on n'a pas l'électricité, si on n'a pas du chauffage, si on n'a pas l'eau courante, si on n'a pas une maison, on est dans la misère. Imaginez quand il y a une coupure de courant, une coupure d'eau, on a eu ça récemment. Qu'est-ce qui se passe, quoi? On ne va pas pouvoir tenir longtemps. Hein. On voit que finalement on est extrêmement dépendant de tout ce qui... Pour avoir été un peu dans le dessert, justement, ou dans des régions où il n'y a pas l'électricité et l'eau courante, on se rend compte que on peut très bien vivre aussi. Hein. Et on n'a pas de smartphone, il n'y a pas d'électricité, de toute façon, il n'y a pas de réseau non plus, donc ça ne sert à rien. On vit, peut-être même mieux. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre ça, en Afrique, c'est merveilleux. C'est certainement les plus belles années de ma vie. Mais maintenant, ordinateur... Bon, c'est très bien, hein. Il en faut aussi, mais voilà. On peut faire de finalement se créer des besoins qui deviennent indispensables. Alors, je dis pas qu'il faut retourner à l'âge de la pierre, c'est pas ça. Mais il faut relativiser, c'est pour ça qu'on a le temps du carême. L'homme ne vit pas seulement de pain. Jésus n'a pas dit l'homme ne vit pas de pain. Si, pas seulement. Il faut du pain, mais pas seulement. Et donc, découvrir qu'il y a une autre fin en nous. La fin de la parole de Dieu. Mais quand on est dans une société repue, on n'a plus besoin. Le frigidaire est plein, on garde manger aussi, on a de quoi. On a des réserves pour de longues années. Les magasins, ils seront toujours pleins. Au moins ici, dans la région. Donc, on n'a pas tellement besoin de faire des provisions, le magasin s'en charge. Et puis il y a le compte en banque qui est là, qui suit aussi un petit peu. Donc, vous voyez, c'est important de revenir un peu à d'autres réalités. Est-ce que notre âme, on en prend autant soin? Est-ce qu'on la nourrit autant? Est-ce qu'on lui permet d'avoir un peu son pain quotidien? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est quel pain dont on parle? Comprenez que Jésus, il a d'abord pensé à la nourriture spirituelle. C'est d'abord l'Eucharistie, la parole de Dieu. C'est d'abord ça qu'on dit dans notre Père. Il faut bien comprendre. Mais c'est aussi le pain à manger pour le corps. Oui, mais le corps, de toute façon, un jour, vous savez, il sera en cendres. Et donc, si on n'a pas nourri notre âme, elle va former un tas de cendres. C'est pas beaucoup, pas bien, pas brillant. Ce qu'il faut, justement, c'est bien découvrir combien notre âme a faim. Alors, tous les plaisirs sont proposés à travers cette tentation. Tout ce qui est là. La deuxième tentation, attention au choc, donc, il lui fait voir tous les royaumes de la terre. Alors, vous ne voyez pas à travers la baie de Rio, mais c'est une manière de montrer, voilà, le démon l'emmène pour lui faire voir tous les royaumes de la terre. La gloire humaine. Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Parce que cela m'appartient, je le donne à qui je veux. Alors, pour ça, il y en a qui sont prêts à perdre leur dignité personnelle, à se vendre, se corrompre. Et c'est l'idolâtrie du pouvoir, de l'argent, le succès. Vous voyez. Voilà, on s'autoproclame chef, roi, président, enfin tous les titres, et on tient à garder vraiment tout cela. Et donc on est tous tentés par cela. Enfin quelqu'un qui me reconnaît, quoi. Et puis je peux avoir un certain pouvoir sur les autres, sur mon petit monde, mon cercle, etc. On règne sur ses casseroles quand on est à la cuisine. Alors, je vous raconte une histoire. J'avais un oncle, ils sont décédés tous les deux, et sa femme. Et lui était chef d'escadron. Et elle, elle était une mère de famille, elle s'occupait des enfants. Bon. Et alors, le mari rentre dans la cuisine. Pourquoi ces batteries de casserole ne sont pas rangées, chérie? Bon. Alors elle lui répond, écoute, je m'occupe pas de ton escadron, t'occupes pas de mes casseroles. Et il dit, mes escadrons, chérie, et tourne bride. Il avait compris que à la cuisine, il n'était plus chef d'escadron. Voilà. Chacun règne sur ce qu'il peut. Hein. Et alors, comprenez, c'est ça. Là, c'est très grisant d'avoir le pouvoir. C'est pour ça que beaucoup de présidents, ils s'accrochent. Ils sont encore en chaise roulante, ils s'accrochent. Ils ont plus de 80 ans, comme au Cameroun. On est encore au pouvoir, encore 7 ans. Bon. Oui. Quand on règne sur une petite activité, on n'aime pas que d'autres viennent revendiquer notre place. On est dans les paroisses, c'est ça. Hein. Ah, ça fait tellement d'années que je suis à ce poste-là, il n'y a pas de raison qu'on change. Et puis, je fais ça très bien. Voilà, si on m'enlève ça, je perds mon identité, je perds tout. J'exagère absolument pas. Je n'exagère pas. C'est la deuxième tentation. Voyez. On est bien enraciné, voilà, on ne veut pas lâcher. Et ben finalement, on s'empoisonne les uns les autres, parce que ça n'avance pas. On reste à son petit train-train quotidien, mais le Seigneur veut nous déloger, justement. Alors, eh bien, il faut bien sûr comprendre, c'est devant Dieu que tu te prosterneras. Hein, parce que le démon, il dit, tu m'adores et puis tu conserves ta place. Un petit donnant-donnant quand même. Hein. Ça, ça m'ébranle, c'est une flexion devant moi et puis ça va, petite concession quoi, un petit compromis, allez oui, voilà. Et souvent on se laisse piéger parce qu'on a trop peur de perdre sa place. Autre tentation, ben il le met au sommet du temple. Puis il dit jette-toi en bas, parce qu'il décrit, puisque à chaque fois Jésus se sert de la parole de Dieu pour lui répondre, il ne lui parle pas. Hein. Vous avez remarqué que Jésus ne parle pas aux démons, il cite la parole de Dieu. Et donc, jette-toi en bas, quand il écrit dans le psaume 90, hein, il donnera mission à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà. Mais si vous lisez la suite du psaume 90, ben, c'est un peu dramatique pour le démon, parce qu'il est écrit, tu marcheras sur le lion et le serpent, sur la vipère et le scorpion. Quoi. Et ça, ça le vise directement. Alors, ça, il ne peut pas le citer quand même. On est malin, mais pas bête à ce point, quoi. Mais il cite juste le verset avant. Le verset d'après, ouais, il ne le dit pas. Perfidie du démon. Donc là, vous voyez, instrumenter son avantage, voilà. Tu te jettes en bas, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens vont te voir, tu es au sommet du temple, dont tous les gens sont en dessous, et te voilà, tu sautes, tu atterris comme une fleur, en douceur, en souplesse. Bravo! Tout le monde va applaudir, très bien, alors venez avec moi maintenant, puis voilà, ta mission, t'as pas besoin de courir les routes de Palestine, tout le monde est là. En une fois, tu fais un petit truc, et ça y est, tout le monde est à tes pieds, tout le monde est avec toi, t'as pas besoin de perdre ton temps, et puis pas besoin de souffrir sur la croix, ça sert à rien, tu le sens, de toute façon, tout le monde est avec toi. Voilà, c'est la tentation de vouloir toujours des miracles, des signes à n'en plus finir. Et Jésus nous montre par là qu'il faut rester humble, et puis il lui dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est finalement vouloir mettre Dieu de notre côté, quoi. On instrumentalise la parole de Dieu, on la fait tourner dans notre sens à nous, pour prouver que c'est nous qui avons raison. Et en fait, on veut satisfaire son propre orgueil. Et donc, c'est la vanité aussi, tentation, l'efficacité aussi, la facilité. Au moins, c'est plus efficace. Donc, on est tous un petit peu, voyez, pris par ces tentations-là. Hein. Et le démon, à travers ces trois tentations, il a résumé toutes les tentations qu'il pouvait y avoir. Toutes nos tentations, elles se retrouvent dans ces trois tentations. Et quand il veut nous tenter, ben, très facile, les plaisirs, la nourriture, tout ce que vous voulez, l'honneur, la gloire des nations, au moins quelqu'un qui me reconnaît, je suis, voilà, et l'argent, voilà. Le pouvoir qui permet de, avec l'argent, on fait tout ce qu'on veut, on a dans le pouvoir. C'est la marque du démon. Et quand on demande l'aide de quelqu'un, cette personne vous flatte, vous montre un bonheur factice, et puis vous fait payer, fuyez, le démon est là derrière. D'ailleurs, quand les gens se plaignent d'attaques de l'esprit du mal, ben, il suffit de chercher un petit peu, on voit qu'il y a la griffe qui est là derrière. Il y a toujours un de ces trois points qui a été... Les gens se font payer très très cher pour pouvoir vous aider. Et je vais vous chasser le démon, vous allez voir, mais vous allez m'amener dans la liste. Hein. Alors, ça dépend des cultures. Pour certains, ce sera des animaux, la chèvre, le mouton, tout ça, de l'huile. D'autres, ce sera peut-être plus subtil. Il faut amener un peu telle chose. Il y a une nouvelle huile de Saint-Michel qui vient de sortir, allez-y de l'acheter. Ou alors aller à tel endroit, vous verrez, ce sera très bien, mais il faut d'abord faire des tas de... Donnez-moi vite votre argent, je vais moi-même dire des messes, et vous allez voir, mais une, ça suffit pas, il faut faire... On va commencer par 30, et puis après, on verra. Je dis pas que la messe, c'est pas à dire, au contraire, c'est peut-être plus efficace pour délivrer quelqu'un, mais attention, la simonie, faire de l'argent avec les choses de Dieu, c'est la trace du démon, ça. quand bien même c'est des choses divines, hein, des mots ils se cachent derrière. Voilà, donc pour résumer, hein, le démon, eh bien, il ne faut pas dialoguer avec lui. On ne lui parle pas et il doit disparaître. Bon, voilà, il fait disparaître et on le fait disparaître. Parce que en donnant la parole de Dieu, eh bien, on a une arme bien plus puissante que tout le reste. Donc dans le désert, vous voyez, il y aura ces tentations, et notre carême, on est tenté, bien sûr, parce que tout d'un coup, pourquoi le chocolat qui, bon, j'avais l'habitude d'en prendre, c'était vraiment pas un problème pour moi, tout d'un coup, ça devient un problème. Dès que je vois quelqu'un manger du chocolat, je dis, aïe, mince, moi j'aimerais bien manger, ah oui, mais c'est carême. Alors qu'avant, bon, tout ce qui était, finalement, on ne voyait pas que c'était un problème, ça le devient. C'est le Seigneur qui révèle un peu notre cœur. Pourquoi pendant le carême on est parfois beaucoup plus irritable? Oui, ben parce qu'avant, ben, on vivait avec les gens, ouais, sans trop autre chose, et puis tout d'un coup, là, tiens, ça devient, je deviens plus sensible. Ah, oui, c'est qu'il y a des choses qui sont en moi, qui doivent être réglées un peu plus, un peu mieux, doivent être un petit peu corrigées. Parce que pourquoi je réagis comme ça maintenant? Qu'avant je ne réagissais pas comme ça, ben, ça veut dire que c'était caché en moi, il fallait une occasion pour que ça sorte, voilà, c'est sorti pendant ce temps de carême. Et voilà, la tentation aussi, finalement, c'est de baisser les bras, et puis de toute façon je n'y arriverai pas, donc c'est pas la peine de commencer. Donc on reste dans sa médiocrité, et finalement on ne progresse pas du tout. Alors, ce combat spirituel ne peut se vivre qu'uni avec Jésus. Chaque fois que donc on s'unit au Christ et qu'on demande son aide dans une tentation, on est victorieux. Même s'il peut y avoir des faux pas, des rechutes, c'est possible. Mais du moment que on s'appuie sur Jésus, on a décidé vraiment de le prendre avec nous dans ce chemin, alors on avance. Et puis on n'avance pas tout seul parce que en nous relevant, on aide aussi aux autres à se relever. C'est quand même encourageant de voir que certains qui ont faibli se sont relevés et puis, bah tiens, moi qui suis tombé, je peux prendre exemple sur celui-là qui était tombé aussi puis qui s'est relevé. Il est arrivé, ben, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Donc en suivant dans les mêmes moyens que celui-là, je vais pouvoir y arriver. Alors, bien sûr, le temps de carême, on nous demande de veiller, de prier, pour ne pas entrer justement en tentation. La tentation, elle peut être positive. Elle peut être quelque chose qui nous fait progresser, comme elle peut nous anéantir. La tentation, quand elle nous est donnée et qu'on prend les moyens que le Seigneur nous donne pour la traverser, eh bien, cette tentation nous fait progresser, nous fortifie. Et puis par la suite, quand d'autres viendront, ben, oui, on sait comment on traverse cette tentation. Tout de suite, ah, la parole de Dieu, le nom de Jésus. Puis parfois il faut fuir parce que quand bon, là, ce lieu-là c'est un lieu de perdition pour moi, je n'y vais pas. C'est pas la peine, je sais que je suis faible. Alors saint Augustin, j'aime beaucoup citer ce passage parce qu'il dit dans, je ne sais plus quel passage, peut-être les Confessions, je ne sais pas, ou un sermon, c'est plutôt un sermon. Il dit que pour le faible, il ne faut pas que la tentation ne lui advienne de peur qu'elle ne le brise. On peut se rendre compte qu'il y a des tentations qui nous mettent par terre. On est trop fragile. On n'est pas encore capable, eh bien, de résister à cette tentation-là. Alors n'allons pas nous mettre face à ces tentations. N'allons pas au-devant de ces tentations. Elles nous brisent. Et donc, si on demande dans notre Père, au Seigneur, de ne pas laisser entrer en tentation, c'est qu'on demande une miséricorde prévenante. C'est-à-dire qu'on demande à Dieu, finalement, de m'enlever certaines tentations. Parce que si j'ai ces tentations-là, je vais tomber dedans, je vais me ramasser. Alors, je demande dans notre Père, ben, Seigneur, enlève-moi ces tentations qui me font tomber, ces épreuves, si vous voulez, qui me font tomber. Mais celles qui me font progresser, ben oui, je les accepte. Et là, je suis capable de sauter cet obstacle-là. Seigneur, ça je veux bien, ce combat-là. Mais celui-là, il est trop haut pour moi. Je peux pas, pour l'instant, je peux pas. Donc, je m'en fortifie déjà en faisant ces petites épreuves. Et Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait très bien compris cela. Je cite souvent ce passage, mais je peux le redire. Je sais pas, j'ai encore un petit peu de temps, encore 2 minutes. Oui. Elle dit, ben voilà, supposons que un père qui est médecin a son fils qui s'engage sur un chemin plein d'embûches et qui se casse une jambe, un membre. Le père va donc secourir son fils, il va le soigner, il va le guérir. Et le fils aura de la reconnaissance envers son père qui a, avec tant de délicatesse, l'a soigné, l'a guéri. Mais supposons que le père, sachant que le fils va prendre un chemin plein d'embûches, va délicatement, sans se faire voir, enlever les embûches du chemin où son fils va passer. Le fils va traverser ce chemin sans tomber. Mais si le fils sait que son père a enlevé les embûches du chemin, les pierres du chemin, est-ce qu'il n'aura pas encore plus de reconnaissance que s'il l'avait simplement ramassé, tout blessé et soigné? Eh bien, elle dit, c'est moi qui suis objet de cette miséricorde prévenante. Le Seigneur m'a enlevé. Il m'a remis plus qu'à Marie-Madeleine, c'est quand même fort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur Bélin. Il a enlevé les embûches, parce que s'il y avait eu ces embûches, je serais tombé. Pire que Marie-Madeleine. Ben, on peut demander, vous savez, dans notre Père, moi je demande ça. Hein. Je demande que le Seigneur m'enlève des tentations, parce que je ne suis pas mieux que les autres. Hein. Si on m'en met une grave, là, je m'étale de tout mon long. Voilà, donc c'est ce combat spirituel, on aura cet après-midi un peu plus d'autres éléments pour y entrer, mais il se vit avec le Christ, et on sait qu'avec Jésus on sera victorieux. On y laissera des plumes, on perdra son poids un peu, c'est pas plus mal, mais finalement on en sortira heureux et libéré, et on sera beaucoup plus fort justement, parce que les privations, les renoncements nous rendent beaucoup plus forts contre l'esprit du mal, contre tout ce qui peut être un obstacle à notre vrai progrès, à notre chemin vers Dieu, vers Pâques. Alors voilà, soyons dans une grande confiance. On n'est pas tout seul. Et le seul avec qui on doit dialoguer dans ce carême, eh bien, c'est Jésus. Et lui, eh bien, aura toujours une parole pour nous fortifier. Merci beaucoup. Merci.
Voilà.